Non, j'aime trop Aurélie, je ne veux pas qu'elle ait la moindre chose à me reprocher. Ah, oh, mon cher, quelle existence tu te prépares, s'écria Maxime. Il est 11 heures, elle doit être revenue de l'ambigu, dit Rochegude en sortant. Et il cria rageusement à son cocher d'aller à fond de train rue de la Bruyère. Madame Schontz avait donné des instructions précises, et monsieur put entrer absolument comme s'il était en bonne intelligence avec madame, mais, avertie de l'entrée au logis de monsieur, madame s'arrangea pour faire entendre à monsieur le bruit de la porte du cabinet de toilette qui se ferma, comme se ferment les portes quand les femmes sont surprises. Puis, dans l'angle du piano, le chapeau de Fabien, oublié à dessein, fut très maladroitement repris par la femme de chambre dans le premier moment de conversation entre monsieur et madame. « Tu n'es pas allé à l'ambigu, mon petit ?»« Non, mon cher, j'ai changé d'avis, j'ai fait de la musique. »« Qui donc est venu te voir ?» dit le marquis avec bonhomie en voyant emporter le chapeau par la femme de chambre. « Mais personne ?» Sur cet audacieux mensonge, Arthur baissa la tête. Il passait sous les fourches codines de la complaisance. L'amour véritable a de ses sublimes lâchetés. Arthur se conduisait avec madame Schontz, comme Sabine avec Calyste, comme Calyste avec Béatrix. En 8 jours, il se fit une métamorphose de larve en papillon chez le jeune, spirituel et beau Charles-Édouard, comte de Rusticoli de la Palférine, le héros de la scène intitulée « Un prince de la Bohème », voire les scènes de la vie parisienne, ce qui dispense de faire ici son portrait et de peindre son caractère. Jusqu'alors, il avait misérablement vécu, comblant ses déficits par une audace à la Danton, mais il paya ses dettes, puis il eut, selon le conseil de Maxime, une petite voiture basse, il fut admis au Jockey Club. Au club de la rue de Grammont, il devint d'une élégance supérieure. Enfin, il publia dans le journal des débats une nouvelle qui lui valut en quelques jours une réputation comme les auteurs de profession ne l'obtiennent pas, après plusieurs années de travaux et de succès, car il n'y a rien de violent à Paris, comme ce qui doit être éphémère. Nathan, bien certain que le comte ne publierait jamais autre chose, fit un tel éloge de ce gracieux et impertinent jeune homme chez madame de Rochegude que Béatrix, aiguillonnée par la lecture de cette nouvelle, manifesta le désir de voir ce jeune roi des truands de bon ton. « Il sera d'autant plus enchanté de venir ici, répondit Nathan, que je le sais épris de vous à faire des folies. Mais il les a toutes faites, m'a-t-on dit. Toutes non, répondit Nathan. Il n'a pas encore fait celle d'aimer une honnête femme. » 6 jours après le complot ourdi sur le boulevard des Italiens entre Maxime et le séduisant comte Charles-Édouard, ce jeune homme à qui la nature avait donné sans doute par raillerie une figure délicieusement mélancolique, fit sa première invasion au nid de la colombe de la rue de Chartres qui, pour cette réception, prit une soirée où Calyste était obligé d'aller dans le monde avec sa femme. Lorsque vous rencontrerez la Palférine, ou quand vous arriverez au prince de la Bohème dans le 3e livre de cette longue histoire de nos mœurs, vous concevrez parfaitement le succès obtenu dans une seule soirée, par cet esprit étincelant, par cette verve inouïe, surtout si vous vous figurez le bien joué du cornac qui consentit à le servir dans ce début. Nathan fut bon camarade. Il fit briller le jeune comte, comme un bijoutier montrant une parure à vendre en fait scintiller les diamants. La Palférine se retira discrètement le premier, il laissa Nathan et la comtesse ensemble, en comptant sur la collaboration de l'auteur célèbre qui fut admirable. En voyant la marquise abasourdie, il lui mit le feu dans le cœur par des réticences qui remuèrent en elle des fibres de curiosité qu'elle ne se connaissait pas. Nathan fit entendre ainsi que l'esprit de la Palférine n'était pas tant la cause de ses succès auprès des femmes que sa supériorité dans l'art d'aimer, et il le grandit démesurément. C'est ici le lieu de constater un nouvel effet de cette grande loi des contraires qui détermine beaucoup de crises du cœur humain et qui rend raison de tant de bizarreries qu'on est forcé de la rappeler quelquefois tout aussi bien que la loi des similaires. Les courtisanes, pour embrasser tout le sexe féminin qu'on baptise, qu'on débaptise et rebaptise à chaque quart de siècle, conservent tout au fond de leur cœur un florissant désir de recouvrer leur liberté, d'aimer purement, saintement et noblement un être auquel elles sacrifient tout, voire splendeur et misère des courtisanes. Elles éprouvent ce besoin antithétique avec tant de violence qu'il est rare de rencontrer une de ces femmes qui n'ait pas aspiré plusieurs fois à la vertu par l'amour. Elle ne se décourage pas, malgré d'affreuses tromperies. Au contraire, les femmes, contenues par leur éducation, par le rang qu'elles occupent, enchaînées par la noblesse de leur famille, vivant au sein de l'opulence, portant une auréole de vertu, sont entraînées secrètement, bien entendu, vers les régions tropicales de l'amour. Ces deux natures de femmes si opposées ont donc au fond du cœur l'une un petit désir de vertu, l'autre ce petit désir de libertinage que Jean-Jacques Rousseau le premier a eu le courage de signaler. Chez l'une, c'est le dernier reflet du rayon divin qui n'est pas encore éteint, chez l'autre, c'est le reste de notre boue primitive. Cette dernière griffe de la bête fut agacée, ce cheveu du diable fut tiré par Nathan avec une excessive habileté. La marquise se demanda sérieusement si, jusqu'à présent, elle n'avait pas été la dupe de sa tête, si son éducation était complète. Le vice, c'est peut-être le désir de tout savoir. Le lendemain, Calyste parut à Béatrix ce qu'il était, un loyal et parfait gentilhomme, mais sans verve ni esprit. À Paris, un homme spirituel est un homme qui a de l'esprit comme les fontaines ont de l'eau, car les gens du monde et les Parisiens, en général, sont spirituels. Mais Calyste aimait trop. Il était trop absorbé pour apercevoir le changement de Béatrix et la satisfaire en déployant de nouvelles ressources. Il parut très pâle au reflet de la soirée précédente et ne donna pas la moindre émotion à l'affamée Béatrix. Un grand amour est un crédit ouvert à une puissance si vorace que le moment de la faillite arrive toujours. Malgré la fatigue de cette journée, la journée où une femme s'ennuie auprès d'un amant, Béatrix frissonna de peur en pensant à une rencontre entre la Palférine, le successeur de Maxime de Trailles, et Calyste, homme de courage sans forfanterie. Elle hésita donc à revoir le jeune comte, mais ce ne fut tranché par un fait décisif. Béatrix avait pris un tiers de loge aux Italiens, dans une loge obscure du rez-de-chaussée afin de ne pas être vue. Depuis quelques jours, Calyste enhardi conduisait la marquise et se tenait dans cette loge derrière elle en combinant leur arrivée assez tard pour qu'ils ne fussent aperçus par personne. Béatrix sortait une des premières de la salle avant la fin du dernier acte et Calyste l'accompagnait de loin en veillant sur elle, quoique le vieil Antoine vînt chercher sa maîtresse. Maxime et la Palférine étudièrent cette stratégie, inspirée par le respect des convenances, par ce besoin de cachotterie qui distingue les idolâtres de l'éternel enfant, et aussi par une peur qui oppresse toutes les femmes, autrefois les constellations du monde, et que l'amour a fait choir de leur rang zodiacal. L'humiliation est alors redoutée comme une agonie plus cruelle que la mort, mais cette agonie de la fierté, cette avanie que les femmes restées à leur rang dans l'Olympe jettent à celles qui en sont tombées, eut lieu dans les plus affreuses conditions par les soins de Maxime. À une représentation de la Lucia qui finit, comme on sait, par un des plus beaux triomphes de Rubini, Madame de Rochegude, qu'Antoine n'était pas venu prévenir, arriva par son couloir au péristyle du théâtre, dont les escaliers étaient encombrés de jolies femmes étagées sur les marches ou groupées en bas, en attendant que leur domestique annonçât leur voiture. Béatrix fut reconnue, par tous les yeux à la fois. Elle excita dans tous les groupes des chuchotements qui firent rumeur. En un clin d'œil, la foule se dissipa, la marquise resta seule comme une pestiférée. Calyste n'osa pas, en voyant sa femme sur un des deux escaliers, aller tenir compagnie à la réprouvée, et Béatrix lui jeta, mais en vain, par un regard trempé de larmes, à deux fois, une prière de venir près d'elle. En ce moment, la Palférine, élégant, superbe, charmant, quitta deux femmes, vint saluer la marquise et causer avec elle. « Prenez mon bras et sortez fièrement, je saurai trouver votre voiture, » lui dit-il. « Voulez-vous finir la soirée avec moi ?» lui répondit-elle en montant dans sa voiture et lui faisant place près d'elle. La Palférine dit à son groom « Suis la voiture de madame » et monta près de Madame de Rochegude, à la stupéfaction de Calyste qui resta plantée sur ses deux jambes comme si elles fussent devenues de plomb, car ce fut pour l'avoir aperçue pâle et blême que Béatrix fit signe au jeune comte de monter près d'elle. Toutes les colombes sont des Robespierre à plumes blanches. Trois voitures arrivèrent rue de Chartres avec une foudroyante rapidité, celle de Calyste, celle de la Palférine, celle de la marquise. « Ah, vous voilà !» dit Béatrix en entrant dans son salon appuyée sur le bras du jeune comte et y trouvant Calyste dont le cheval avait dépassé les deux autres équipages. « Vous connaissez donc monsieur ?» demanda rageusement Calyste à Béatrix. « Monsieur le comte de la Palférine me fut présenté par Nathan il y a 10 jours, » répondit Béatrix. « Et vous, monsieur, vous me connaissez depuis 4 ans. »« Et je suis prêt, madame, » dit Charles-Édouard, « à faire repentir jusque dans ses petits-enfants, madame la marquise d'Espard, qui la première s'est éloignée de vous. »« Ah, c'est elle, cria Béatrix. Je lui revaudrai cela. Pour vous venger, il faudrait reconquérir votre mari, mais je suis capable de vous le ramener, dit le jeune homme à l'oreille de la marquise. La conversation ainsi commencée alla jusqu'à 2 heures du matin sans que Calyste, dont la rage fut sans cesse refoulée par des regards de Béatrix, eût pu lui dire 2 mots à part. La palférine, qui n'aimait pas Béatrix, fut d'une supériorité de bon goût d'esprit et de grâce égale à l'infériorité de Calyste qui se tortillait sur les meubles comme un verre coupé en deux et qui par 3 fois se leva pour souffleter la palférine. La 3e fois que Calyste fit un bond vers son rival, le jeune comte lui dit un « Souffrez-vous, monsieur le baron ?» qui fit asseoir Calyste sur une chaise et il y resta comme un terme. La marquise conversait avec une aisance de célimène, en feignant d'ignorer que Calyste fût là. La palférine eut la suprême habileté de sortir sur un mot plein d'esprit, en laissant les 2 amants brouillés. Ainsi, par l'adresse de Maxime, le feu de la discorde flambait dans le double ménage de monsieur et de madame de Rochegude. Le lendemain, en apprenant le succès de cette scène par la palférine au Jockey Club, où le jeune comte jouait au whist avec succès, il alla rue de la Bruyère, à l'hôtel Schontz, savoir comment Aurélie menait sa barque. « Mon cher, dit madame Schontz en riant à l'aspect de Maxime, je suis au bout de tous mes expédients. Rochegude est incurable. Je finis ma carrière de galanterie en m'apercevant que l'esprit y est un malheur. Explique-moi cette parole. D'abord, mon cher ami, j'ai tenu mon Arthur pendant 8 jours au régime des coups de pied dans les os, des jambes, des scies les plus patriotiques et de tout ce que nous connaissons de plus désagréable dans notre métier. « Tu es malade, me disait-il avec une douceur paternelle, car je ne t'ai fait que du bien et je t'aime à l'adoration. « Vous avez un tort, mon cher, lui ai-je dit, vous m'ennuyez. « Eh bien, n'as-tu pas pour t'amuser les gens les plus spirituels et les plus jolis jeunes gens de Paris ?» m'a répondu ce pauvre homme. « J'ai été collé. Là, j'ai senti que je l'aimais. « Ah ! Dit Maxime. « Que veux-tu ? C'est plus fort que nous. On ne résiste pas à ces façons-là. » J'ai changé la pédale, j'ai fait des agaceries à ce sanglier judiciaire, à mon futur tourné comme Arthur en mouton. Je l'ai fait rester là, sur la bergère de Rochegude, et je l'ai trouvé bien sot. Me suis-je ennuyé ? Il fallait bien avoir la Fabien pour me faire surprendre avec lui. « Eh bien, s'écria Maxime, arrive donc, voyons, quand Rochegude t'a eu surprise. Tu n'y es pas, mon bonhomme. Selon tes instructions, les bans sont publiés, notre contrat se griffonne, ainsi Notre-Dame de Lorette n'a rien à redire. » Quand il y a promesse de mariage, on peut bien donner des arrhes. En nous surprenant, Fabien et moi, le pauvre Arthur s'est retiré sur la pointe des pieds jusque dans la salle à manger, et il s'est mis à faire broum broum en toussaillant et heurtant beaucoup de chaises. Ce grand niais de Fabien, à qui je ne peux pas tout dire, a eu peur. Voilà, mon cher Maxime, à quel point nous en sommes. Arthur me verrait deux, un matin en entrant dans ma chambre, il est capable de me dire « Avez-vous bien passé la nuit, mes enfants ?» Maxime hocha la tête et joua pendant quelques instants avec sa canne. « Je connais ces natures-là, dit-il. Voici comment il faut y prendre. Il n'y a plus qu'à jeter Arthur par la fenêtre et à bien fermer la porte. Tu recommenceras ta dernière scène avec Fabien ? En voilà une corvée, car enfin le sacrement ne m'a pas encore donné sa vertu. Tu t'arrangeras pour échanger un regard avec Arthur quand il te surprendra, dit Maxime en continuant. S'il se fâche, tout est dit. S'il fait encore broum-broum, c'est encore bien mieux fini. Comment ? « Eh bien, tu te fâcheras. Tu lui diras « Je me croyais aimé, estimé, mais vous n'éprouvez plus rien pour moi, vous n'avez pas de jalousie. Tu connais la tirade. » Dans ce cas-là, Maxime, fais-moi intervenir, tuerait son homme sur le coup et pleure. Et Fabien, lui, fais-lui honte en le comparant à Fabien, Fabien que j'aime, Fabien tirerait un poignard pour vous le plonger dans le cœur. Ah, voilà aimé. Aussi, tenez, adieu, bonsoir, reprenez votre hôtel, j'épouse Fabien. Il me donne son nom, lui, il foule aux pieds sa vieille mère. Enfin, tu... Connu, connu, je serai superbe, s'écria madame Schontz. Ah, Maxime, il n'y aura jamais qu'un Maxime, comme il n'y a eu qu'un de Marsay. La palférine est plus fort que moi, répondit modestement le comte de Trailles. Il va bien. Il a de la langue, mais tu as du poignet et des reins. En as-tu supporté? En as-tu peloté? Dit la Schontz. La palférine a tout. Il est profond et instruit, tandis que je suis ignorant, répondit Maxime. J'ai vu Rastignac, qui s'est entendu sur le champ avec le garde des Sceaux. Fabien sera nommé président et officier de la Légion d'honneur après 1 an d'exercice. Je me ferai dévote, répondit madame Schontz, en accentuant cette phrase de manière à obtenir un signe d'approbation de Maxime. Les prêtres valent mieux que nous, repartit Maxime. Ah, vraiment ? Demanda madame Schontz. Je pourrais donc rencontrer des gens à qui parler en province. J'ai commencé mon rôle. Fabien a déjà dit à sa mère que la grâce m'avait éclairée, et il a fasciné la bonne femme de mon million et de la présidence. Elle consent à ce que nous demeurions chez elle. Elle a demandé mon portrait et m'a envoyé le sien. Si l'amour le regardait, il en tomberait à la renverse. Va-t'en, Maxime, ce soir je vais exécuter mon pauvre homme. Ça me fend le cœur. Deux jours après, en s'abordant sur le seuil de la maison du Jockey Club, Charles-Édouard dit à Maxime « C'est fait ». Ce mot, qui contenait tout un drame horrible, épouvantable, accompli souvent par vengeance, fit sourire le comte de Trailles. « Nous allons entendre les doléances de Rochegude, dit Maxime, car vous avez touché but ensemble, Aurélie et toi. Aurélie a mis Arthur à la porte et il faut maintenant le chambrer. Il doit donner 300 000 francs à Madame du Ronceret et revenir à sa femme. Nous allons lui prouver que Béatrix est supérieure à Aurélie. » « Nous avons bien 10 jours devant nous, » dit finement Charles-Édouard, « et en conscience, ce n'est pas trop, car maintenant que je connais la marquise, le pauvre homme sera joliment volé. »« Comment feras-tu lorsque la bombe éclatera ?»« On a toujours de l'esprit quand on a le temps d'en chercher. Je suis surtout superbe en me préparant. » Les deux joueurs entrèrent ensemble dans le salon et trouvèrent le marquis de Rochegude vieilli de 2 ans. Il n'avait pas mis son corset, il était sans son élégance, la barbe longue. « Eh bien, mon cher marquis, » dit Maxime. « Ah, mon cher, ma vie est brisée. » Arthur parla pendant 10 minutes, et Maxime l'écouta gravement. Il pensait à son mariage qui se célébrait dans 8 jours. « Mon cher Arthur, je t'avais donné le seul moyen que je connusse de garder Aurélie, et tu n'as pas voulu. »« Lequel ?»« Ne t'avais-je pas conseillé d'aller souper chez Antonia ?»« C'est vrai. Que veux-tu, j'aime. Et toi, tu fais l'amour comme Grisier fait des armes. » « Écoute, Arthur, donne-lui 300 000 francs de son petit hôtel et je te promets de te trouver mieux qu'elle. Je te parlerai de cette belle inconnue plus tard. Je vois Dajuda qui veut me dire 2 mots. » Et Maxime laissa l'homme inconsolable pour aller au représentant d'une famille à consoler. « Mon cher, » dit l'autre marquis à l'oreille de Maxime, « la duchesse est au désespoir. Caliste a fait faire secrètement ses malles. Il a pris un passeport. Sabine veut suivre les fugitifs, surprendre Béatrix et la griffer. » Elle est grosse et ça prend la tournure d'une envie assez meurtrière, car elle est allée acheter publiquement des pistolets. Dis à la duchesse que Madame de Rochegude ne partira pas et que dans 15 jours tout sera fini. Maintenant, Dajuda, ta main. Ni toi ni moi, nous n'avons jamais rien dit, rien su. Nous admirerons les hasards de la vie. La duchesse m'a déjà fait jurer sur les saints évangiles et sur la croix de me taire. Tu recevras ma femme dans 1 mois d'ici. Avec plaisir. « Tout le monde sera content, » répondit Maxime. « Seulement, préviens la duchesse d'une circonstance qui va retarder de 6 semaines son voyage en Italie. Je te dirai quoi plus tard. »« Qu'est-ce ? » dit Ajuda, qui regardait la palférine. « Le mot de Socrate avant de partir. Nous devons un coq à Esculape, » répondit la palférine sans sourciller. Pendant 10 jours, Caliste fut sous le poids d'une colère d'autant plus invincible qu'elle était doublée d'une véritable passion. Béatrix éprouvait cet amour si brutalement, mais si fidèlement dépeint à la duchesse de Grandlieu par Maxime de Trailles. Peut-être n'existe-t-il pas d'êtres bien organisés qui ne ressentent cette terrible passion une fois dans le cours de leur vie. La marquise se sentait domptée par une force supérieure, par un jeune homme à qui sa qualité n'imposait pas, qui, tout aussi noble qu'elle, la regardait d'un œil puissant et calme, et à qui ses plus grands efforts de femme arrachaient à peine un sourire d'éloge. Enfin, elle était opprimée par un tyran qui ne la quittait jamais sans la laisser pleurant, blessée et se croyant des torts. Charles-Édouard jouait à Madame de Rochegude la comédie que Madame de Rochegude jouait depuis 6 mois à Caliste. Béatrix, depuis l'humiliation publique reçue aux Italiens, n'était pas sortie avec Monsieur du Guénic de cette proposition. « Vous m'avez préféré le monde et votre femme, vous ne m'aimez donc pas. » Si vous voulez me prouver que vous m'aimez, sacrifiez-moi votre femme et le monde. Abandonnez Sabine et allons vivre en Suisse, en Italie, en Allemagne. » S'autorisant de ce dur ultimatum, elle avait établi ce blocus que les femmes dénoncent par de froids regards, par des gestes dédaigneux et par leur contenance de place forte. Elle se croyait délivrée de Caliste. Elle pensait que jamais il n'oserait rompre avec les grands lieux. Laisser Sabine à qui Mademoiselle des Touches avait laissé sa fortune, n'était-ce pas à se vouer à la misère ? Mais Caliste, devenu fou de désespoir, avait secrètement pris un passeport et prié sa mère de lui faire passer une somme considérable. En attendant cet envoi de fonds, il surveillait Béatrix, en proie à toute la fureur d'une jalousie bretonne. Enfin, 9 jours après la fatale communication faite au club par la palférine à Maxime, le baron, à qui sa mère avait envoyé 30 000 francs, accourut chez Béatrix avec l'intention de forcer le blocus, de chasser la palférine et de quitter Paris avec son idole apaisée. Ce fut une de ces alternatives terribles où les femmes qui ont conservé quelque peu de respect d'elles-mêmes s'enfoncent à jamais dans les profondeurs du vice, mais d'où elles peuvent revenir à la vertu. Jusque-là, Madame de Rochegude se regardait comme une femme vertueuse au cœur de laquelle il était tombé deux passions. Mais adorer Charles-Édouard et se laisser aimer par Calyste, elle allait perdre sa propre estime, car là où commence le mensonge, commence l'infamie. Elle avait donné des droits à Calyste, et nul pouvoir humain ne pouvait empêcher le Breton de se mettre à ses pieds et de les arroser des larmes d'un repentir absolu. Beaucoup de gens s'étonnent de l'insensibilité glaciale sous laquelle les femmes éteignent leurs amours. Mais si elle n'effaçait point ainsi le passé, la vie serait sans dignité pour elle. Elle ne pourrait jamais résister à la privauté fatale à laquelle elles se sont une fois soumises. Dans la situation entièrement neuve où elle se trouvait, Béatrix eût été sauvée si la palférine fût venue, mais l'intelligence du vieil Antoine la perdit. En entendant une voiture qui arrêtait à la porte, elle dit à Calyste « Voilà du monde !» et elle courut afin de prévenir un éclat. Antoine, en homme prudent, dit à Charles-Édouard, qui ne venait pas pour autre chose que pour entendre cette parole, « Madame la marquise est sortie ». Quand Béatrix apprit de son vieux domestique la visite du jeune comte et la réponse faite, elle dit « C'est bien » et rentra dans son salon en se disant « Je me ferai religieuse ». Calyste, qui s'était permis d'ouvrir la fenêtre, aperçut son rival. « Qui donc est venu ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas, Antoine est encore en bas. »« C'est la palférine. » »« Cela pourrait être... » « Tu l'aimes, et voilà pourquoi tu me trouves des torts. Je l'ai vu. Tu l'as vu ? J'ai ouvert la fenêtre. » Béatrix tomba comme morte sur son divan. Alors elle transigea pour avoir un lendemain. Elle remit le départ à 8 jours sous prétexte d'affaires et se jura de défendre sa porte à Calyste si elle pouvait apaiser la palférine, car tels sont les épouvantables calculs et les brûlantes angoisses que cachent ces existences sorties des rails sur lesquelles roule le grand convoi social. Lorsque Béatrix fut seule, elle se trouva si malheureuse, si profondément humiliée, qu'elle se mit au lit. Elle était malade. Le combat violent qui lui déchirait le cœur lui parut avoir une réaction horrible. Elle envoya chercher le médecin, mais en même temps, elle fit remettre chez la palférine la lettre suivante, où elle se vengea de Calyste avec une sorte de rage. « Mon ami, venez me voir. Je suis au désespoir. Antoine vous a renvoyé quand votre arrivée eut mis fin à l'un des plus horribles cauchemars de ma vie en me délivrant d'un homme que je hais et que je ne reverrai plus jamais, je l'espère. Je n'aime que vous au monde et je n'aimerai plus que vous, quoique j'aie le malheur de ne pas vous plaire autant que je le voudrais. » Elle écrivit 4 pages qui, commençant ainsi, finissaient par une exaltation beaucoup trop poétique pour être typographiée, mais où Béatrix se compromettait tant qu'elle la termina par « Suis-je assez à ta merci ?» « Ah, rien ne me coûtera pour te prouver combien tu es aimé. » Et elle signa ce qu'elle n'avait jamais fait, ni pour Calyste, ni pour Conti. Le lendemain, à l'heure où le jeune comte vint chez la marquise, elle était au bain. Antoine le pria d'attendre. À son tour, il fit renvoyer Calyste, qui, tout affamé d'amour, vint de bonne heure, et qu'il regarda par la fenêtre au moment où il remontait en voiture désespéré. « Ah, Charles, dit la marquise en entrant dans son salon, vous m'avez perdu. » « Je le sais bien, madame, répondit tranquillement la palférine. Vous m'avez juré que vous n'aimiez que moi. Vous m'avez offert de me donner une lettre dans laquelle vous écririez les motifs que vous auriez de vous tuer, afin qu'en cas d'infidélité je puisse vous empoisonner sans avoir rien à craindre de la justice humaine, comme si des gens supérieurs avaient besoin de recourir au poison pour se venger. Vous m'avez écrit « Rien ne me coûtera pour te prouver combien tu es aimé. » Eh bien, je trouve une contradiction dans ce mot « Vous m'avez perdu » avec cette fin de lettre. Je saurai maintenant si vous avez eu le courage de rompre avec du Guénic. « Eh bien, tu t'es vengé de lui par avance, » dit-elle en lui sautant au cou. « Et de cette affaire-là, toi et moi, nous sommes liés à jamais. »« Madame, » répondit froidement le prince de la Bohême, « si vous me voulez pour ami, j'y consens. Mais à des conditions. »« Des conditions ?»« Oui, des conditions que voici. » Vous vous réconcilierez avec Monsieur de Rochegude, vous recouvrerez les honneurs de votre position, vous reviendrez dans votre bel hôtel de la rue d'Anjou, vous y serez une des reines de Paris, vous le pourrez en faisant jouer à Rochegude un rôle politique et en mettant dans votre conduite l'habileté et la persistance que Madame d'Espard a déployées. Voilà la situation dans laquelle doit être une femme à qui je fais l'honneur de me donner. Mais vous oubliez que le consentement de Monsieur de Rochegude est nécessaire. « Oh, cher enfant, répondit la palférine, nous vous l'avons préparé, je lui ai engagé ma foi de gentilhomme, que vous valiez toutes les chontes du quartier Saint-Georges, et vous me devez compte de mon honneur. » Pendant 8 jours, tous les jours, Calyste alla chez Béatrix, dont la porte lui fut refusée par Antoine, qui prenait une figure de circonstance pour dire « Madame la marquise est dangereusement malade ». De là, Calyste courait chez la palférine, dont le valet de chambre répondait « Monsieur le comte est à la chasse ». Chaque fois, le breton laissait une lettre pour la palférine. Le 9e jour, Calyste, assigné par un mot de la palférine pour une explication, le trouva, mais en compagnie de Maxime de Trailles, à qui le jeune roué voulait sans doute donner une preuve de son savoir-faire en le rendant témoin de cette scène. « Monsieur le baron, dit tranquillement Charles-Édouard, voici les 6 lettres que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire. Elles sont saines et entières, elles n'ont pas été décachetées. Je savais d'avance ce qu'elle pouvait contenir en apprenant que vous me cherchiez partout depuis le jour que je vous ai regardé par la fenêtre quand vous étiez à la porte d'une maison ou la veille j'étais à la porte quand vous étiez à la fenêtre. J'ai pensé que je devais ignorer des provocations malséantes. Entre nous, vous avez trop de bon goût pour en vouloir à une femme de ce qu'elle ne vous aime plus. C'est un mauvais moyen de la reconquérir que de chercher querelle au préféré. Dans la circonstance actuelle, vos lettres étaient entachées d'un vice radical, d'une nullité, comme disent les avoués. Vous avez trop de bon sens pour en vouloir à un mari de reprendre sa femme. Monsieur de Rochegude a senti que la situation de la marquise était sans dignité. Vous ne trouverez plus jamais Madame de Rochegude rue de Chartres, mais bien à l'hôtel de Rochegude, dans 6 mois l'hiver prochain. Vous vous êtes jeté fort étourdiment au milieu d'un raccommodement entre époux que vous avez provoqué vous-même en ne sauvant pas à Madame de Rochegude l'humiliation qu'elle a subie aux Italiens. En sortant de là, Béatrix, à qui j'avais porté déjà quelques propositions amicales de la part de son mari, me prit dans sa voiture et son premier mot fut, alors, aller chercher Arthur. « Oh mon Dieu !» s'écria Calyste. « Elle avait raison, j'avais manqué de dévouement. » Malheureusement, monsieur, ce pauvre Arthur vivait avec une de ces femmes atroces, la Schontz, qui depuis longtemps se voyait d'heure en heure sur le point d'être quittée. Madame Schontz, qui, sur la foi du teint de Béatrix, nourrissait le désir de se voir un jour marquise de Rochegude, est devenue enragée en trouvant ses châteaux en Espagne à terre. Elle a voulu se venger d'un seul coup de la femme et du mari. Ces femmes-là, monsieur, se crèvent un œil pour en crever 2 à leur ennemi. La Schontz, qui vient de quitter Paris, en a crevé 6. Et si j'avais eu l'imprudence d'aimer Béatrix, cette Schontz en aurait crevé 8. Vous devez vous être aperçu que vous avez besoin d'un oculiste. » Maxime ne put s'empêcher de sourire au changement de figure de Calyste qui devint pâle en ouvrant alors les yeux sur sa situation. « Croiriez-vous, monsieur le baron, que cette ignoble femme a donné sa main à l'homme qui lui a fourni les moyens de se venger ?» Ah, les femmes! Vous comprenez maintenant pourquoi Béatrix s'est renfermée avec Arthur pour quelques mois à Nogent-sur-Marne, où ils ont une délicieuse petite maison. Ils y recouvreront la vue. Pendant ce séjour, on va remettre à neuf leur hôtel où la marquise veut déployer une splendeur princière. Quand on aime sincèrement une femme si noble, si grande, si gracieuse, victime de l'amour conjugal au moment où elle a le courage de revenir à ses devoirs, le rôle de ceux qui l'adorent comme vous l'adorez, qui l'admirent comme je l'admire, est de rester ses amis quand on ne peut plus être que cela. Vous voudrez bien m'excuser si j'ai cru devoir prendre monsieur le comte de Trailles pour témoin de cette explication, mais je tenais beaucoup à être nette en tout ceci. Quant à moi, je veux surtout vous dire que si j'admire Madame de Rochegude comme intelligence, elle me déplaît souverainement comme femme. Voilà donc comment finissent nos plus beaux rêves, nos amours célestes, dit Calyste abasourdi par tant de révélations et de désillusionnements. En queue de poisson, s'écria Maxime, je ne connais pas de premier amour qui ne se termine bêtement. Ah, monsieur le baron, tout ce que l'homme a de céleste ne trouve d'aliment que dans le ciel. Voilà ce qui nous donne raison à nous autres roués. Moi, j'ai beaucoup creusé cette question-là, monsieur. Et, vous le voyez, je suis mariée d'hier. Je serai fidèle à ma femme, et je vous engage à revenir à Madame du Guénic dans 3 mois. Ne regrettez pas Béatrix, c'est le modèle de ces natures vaniteuses, sans énergie, coquettes par gloriole. C'est Madame d'Espard, sans sa politique profonde, la femme sans cœur et sans tête, étourdie dans le mal. Madame de Rochegude n'aime qu'elle. Elle vous aurait brouillé sans retour avec Madame du Guénic, et vous eût planté là sans remords. Enfin, c'est incomplet pour le vice comme pour la vertu. « Je ne suis pas de ton avis, Maxime, dit la palférine. Elle sera la plus délicieuse maîtresse de maison de Paris. » Calyste ne sortit pas sans avoir échangé des poignées de main avec Charles-Édouard et Maxime de Trailles, en les remerciant de ce qu'il l'avait opéré de ses illusions. 3 jours après, La duchesse de Grandlieu, qui n'avait pas vu sa fille Sabine depuis la matinée où cette conférence avait eu lieu, survint un matin et trouva Calliste au bain. Sabine auprès de lui travaillait à des ornements nouveaux pour la nouvelle layette. « Eh bien, que vous arrive-t-il donc, mes enfants ?» demanda la bonne duchesse. « Rien que de bon, ma chère maman, » répondit Sabine, qui leva sur sa mère des yeux rayonnants de bonheur. « Nous avons joué la fable des deux pigeons, voilà tout. » Calliste tendit la main à sa femme et la lui serrant si tendrement en lui jetant un regard si éloquent qu'elle dit à l'oreille de la duchesse « Je suis aimée, ma mère, et pour toujours. » 1838-1844.